Radio Talbot est une présentation des Brasseurs illimités et de la bière Simple Malte. Mugodio, les spécialistes pour les DJ, le son et la musique depuis 1998. Mugodio.com. EB Games, le plus grand détaillant de jeux au Canada. Et par CIPC, votre référence pour votre solution informatique.
Salut tout le monde, ici Denis Talbot. Bienvenue à cette autre édition de Radio Talbot, édition du 3 décembre. C'est déjà le 3 décembre, c'est fou ce que ça va vite, mesdames, messieurs. Est-ce que vous êtes prêts pour vos cadeaux de Noël? Monsieur, merci, est-ce que tu as pensé à mon cadeau pour Noël?
Pas vraiment. Le tien, non? Ça sent bien, ça sent bien.
J'en suis sûr. Laurent Lassalle.
Moi, ma mère me gosse encore pour que je fasse une liste. Faut que je fasse des listes à ma sœur. En tout cas, c'est compliqué, Noël. Donnez-moi des affaires si vous voulez. Donnez-moi rien si vous voulez pas, je m'en.
Ah, The Grinch, From Man. Christmas.
Oui, totalement. Êtes-vous surpris?
Non, non. Pas du tout. Non, mais écoute, on aime tous ça, avoir des cadeaux, non?
Non, j'aime ça en donner, mais comme... comme...
Là, ta blonde, elle va te gâter, je suis sûr.
Ah oui, mais là, non, elle va plus fouiller, mais ma mère veut savoir ce que je veux. Je sais pas.
Un beau chandail geek, là. T'aimes-tu avoir des chandails?
Oui, mais c'est parce que je veux choisir. C'est ça, l'affaire. Je ne fais pas confiance aux gens.
Toi, monsieur, merci. Tu es plus chandail que bas, que gadget.
Je suis plus grosse révélation. J'ai jamais acheté une paire de bas de ma vie. Je reçois ça à Noël de ma mère.
Ouais, moi aussi, c'est la même affaire.
J'ai jamais acheté ça de ma vie. Je sais même pas. Y a-tu une taille, c'est bas? J'en ai aucune idée.
Y a-tu une taille, c'est bas?
Il y en a que c'est one size fit all. En tout cas.
Ah, d'accord.
C'est pas un spécial bas ce soir, je pense.
Spécial bas ce soir. On discute de bas parce que le bas, c'est le pied. Non, mais sérieusement, mesdames, messieurs, on s'en va à San Francisco, lui et moi, là, l'être au bout de la table.
Hello!
Is it me you're looking for?
Faut que tu montres les autres caméras, les 8 caméras qui sont autour de moi.
Tipouf!
Hey!
Tipouf!
Hey!
Tipouf!
Hey!
Tipouf! Hey!
C'est n'importe quoi.
Hey!
Fait qu'on s'en va à San Francisco pour le PlayStation Experience.
C'est quoi cette affaire-là? Conte-moi ça. Je ne connais pas ça du tout. Je suis un néophyte dans le domaine. Qu'est-ce que le PlayStation Experience?
C'est un événement annuel qui a, évidemment, qui est centré autour de PlayStation. Donc, c'est comme l'espèce de WWDC, si tu veux.
Un mini E3, mais consacré seulement au PlayStation.
Exactement. Parce que c'est un peu la mode désormais. Je veux dire, les fabricants d'appareils mobiles font ça aussi. Ils font leur propre événement pour dévoiler leur propre patente.
Ben oui, mais pourquoi?
Là, faut pas s'attendre à un dévoilement de matériel, là, mais il va y avoir des jeux.
Peut-être
qu'on va avoir PlayStation VR, on va peut-être pouvoir l'essayer.
Je sais ce qu'on... Ben, en tout cas, dans le communiqué que j'ai eu, moi, je l'essaye. Je sais pas toi si tu l'essayes.
Nous, OK, ben je sais pas. Moi, je lis pas ces affaires-là, mais c'est sûr que je vais faire des pieds et des mains pour l'essayer. De deux, j'ai déjà un collègue de Branchez-vous qui habite au Japon qui a eu la chance de l'essayer.
Ah, d'accord. Mais toi, tu n'as jamais essayé, hein?
Mais non, je n'ai jamais essayé. J'ai essayé l'Oculus.
OK.
Les deux versions, là, 1080p, même.
Moi, c'est ça que je vais essayer.
720p aussi, là,
J'ai essayé, moi aussi, l'Oculus, mais ça m'intrigue beaucoup. Tout comme les lunettes de Microsoft, d'ailleurs, qui s'en viennent.
Ouais, c'est plus loin, il me semble. Microsoft, c'est pas pour demain matin. Surtout avec un kit de développement qui coûte quoi, 4000, 5000$?
Ouais, c'est ça. Mais écoute, ça coûte cher, les kits de développement, tu me diras, mais c'est avec ça qu'ils font des jeux. C'est des outils de travail, dis-toi ça.
Tout à fait.
C'est des outils de travail, c'est normal que ça. Donc, c'est au Moscone Center. J'ai déjà été au Moscone?
Moscone Center.
Moscone ou Moscone?
Je ne sais pas.
Moscone.
Moi, je dirais Moscone.
Moscone Center.
Je ne suis jamais allé à San Francisco, donc encore moins Moscone Center. C'est d'ailleurs au Moscone Center ou Moscone Center, appelez ça comme vous voulez, que Apple fait ses patentes.
On va être là.
Puis moi, j'étais convaincu que la première fois que je me rendrais à cet endroit-là, ça serait pour un événement d'Apple. Mais non! Sony par la bande.
Cool, on va aller là, puis ça va être le fun, on va essayer plein d'affaires, on va voir plein de trucs, et on va essayer de faire des Meerkat, puis l'autre affaire, là, des Periscope, puis s'amuser en direct de là-bas. On va vous tenir au courant avec Benoît Mercier, qui, lui, ne sera pas là.
Non.
T'as un événement qui s'en vient, Benoît, c'est quoi?
Excuse-moi?
Ton événement qui s'en vient, c'est quoi, là, ton Noël?
Ah oui, ma petite plug, c'est le samedi 19 décembre prochain, je fais mon traditionnel spécial de Noël.
Et hey, tout le monde est invité, d'ailleurs.
Non. Mon salon est déjà pas mal rempli, malheureusement. Okay. Mais ça fait 6 ans qu'on fait ça, donc habituellement, c'est un podcast qui est audio, mais on fait un spécial d'environ 1h30, 2h en vidéo, en direct sur YouTube. Et c'est... ça rend hommage, en fait, aux spéciaux de Noël, là, comme on connaît dans le temps, avec des vieux gilets-lettes.
Ouais.
On est quétaine pour de vrai, on aime ça. Et on transforme finalement ma cuisine en vrai faux chalet,
Mais les décors, je tiens à le dire, sont magnifiques à toutes les années. Si,
on se donne vraiment. Là, ouais. On est des petits-enfants qui s'amusent avec des blocs Lego. Là, c'est la même affaire. Donc, c'est une heure et demie à peu près, deux heures. On fait une espèce de rétrospective de l'année. Puis c'est sans prétention. C'est pour nous autres. C'est surtout du plaisir. C'est comme un peu notre party de Noël. Et ben, on aime bien gros faire ça. Puis ça s'en vient. C'est le 19 décembre. Ça va être sur mon site internet, mystérieuxétalements.com, à partir de 20h.
Et est-ce que vous détruisez le décor à la fin? Comment ça marche?
On recycle le décor d'année en année. L'année passée, c'est la première fois qu'on avait vraiment un décor assez étoffé. Dans les premières années, il y a 6 ans, on faisait ça avec une petite console en qualité SD. C'était vraiment boboche. On n'avait pas d'éclairage. Puis à chaque année, on rajoute quelque chose. Là, cette année, l'année passée, c'était les décors. Cette année, on va améliorer d'autres aspects techniques. Puis éventuellement,
il va y avoir de la 3D cette année, c'est ça?
Éventuellement, ce serait le fun d'une caméra que le monde peut contrôler directement
sur le plateau. Ça va être fou.
Entre la cuisinière et la laveuse, ça pourrait être cool.
Ben, aujourd'hui, je suis content. On a eu un beau tweet d'un Français qui s'appelle Olivier Fontenay, qui, lui, travaille. Attendez un petit peu, je vais vous donner exactement où il travaille. Producing video games depuis longtemps. Il a fait Siberia, Amazon, Babelfish et bientôt Dead Flower Case. Avec un créateur qui s'appelle Stéphane Allu. Il a découvert, j'allais dire Monsieur Net, parce que j'ai le chandail aujourd'hui, vintage. Il a découvert Radio Talbot et il nous a fait une espèce de tweet. Et là, les Français, bang, bang, sont inscrits. On a eu plusieurs inscriptions aujourd'hui. Merci beaucoup à ce monsieur Fontenay. Et on va essayer de rester en contact, d'ailleurs, pour éventuellement qu'il nous tienne au parfum de ce qui se fait, non seulement dans ses studios, mais ailleurs également.
Tout à fait.
En France, à Paris. Il est basé à Paris, d'ailleurs. C'est très cool.
Sur le vieux continent.
Oui, effectivement. Et sur l'encore plus vieux continent, de l'autre bord, il y a nos amis de Koei Tecmo qui affirment des drôles d'affaires. Il paraît que le jeu Dead or Alive Extreme 3, pardon, ou j'allais dire Truie, mais Extreme 3, est trop sexiste pour nous, occidentaux.
Ben,
il nie ça.
En fait, c'est vraiment compliqué. Les gens qui se tiennent sur des sites de jeux vidéo ont peut-être vu la nouvelle passer. On dirait que ça veut pas mourir. Donc, la semaine dernière, il y a eu comme information, Koei Tecmo a dit que le jeu Dead or Alive Extreme 3 n'allait pas voir le jour, ni en Europe, ni en Amérique du Nord. Mm-hmm. Donc, les fans de la série ont demandé pourquoi. Et après plusieurs fois, après avoir reçu plusieurs fois la même question, il y a Koei Tecmo, en fait, à partir de la page de Dead or Alive, qui a répondu. Puis là, je fais une traduction libre, mais c'est vraiment drôlement écrit parce que déjà, l'anglais, il ne maîtrise pas. Donc, savez-vous que beaucoup de problèmes sont survenus dans l'industrie du jeu vidéo en ce qui concerne la façon de traiter les femmes dans l'industrie du jeu vidéo?
Ah oui.
Nous ne voulons pas parler de ces choses ici. Nous avons certainement réfléchi à la question dans les deux dernières années pour en venir à notre décision. Point. Puis là, ça a comme paniqué sur les réseaux sociaux parce que c'est comme s'ils admettaient que leur jeu allait peut-être un peu trop loin. Donc, l'entreprise s'est ravisée en début de semaine. Ils ont dit dans un communiqué officiel, là, c'était sur Twitter, les commentaires récemment faits par un employé à l'égard de Dead or Alive Extreme 3 sur la page officielle de Dead or Alive reflètent seulement l'opinion de cet individu et non l'opinion ni la stratégie d'entreprise de Koei Tecmo Games.
Mais écoute,
nous restons concentrés à offrir le meilleur divertissement de combat à nos adeptes du monde entier, tout en soutenant des stratégies qui respectent consciemment les divers publics à l'échelle internationale à qui s'adresse la franchise Dead or Alive. Donc, essentiellement, ils ont dit « Non, c'est pas ce qu'on dit, c'est pas officiel, mais on sortira quand même pas le jeu en Europe ni en Amérique.
» Mais c'est
bizarre.
C'est, en tout cas, ils ont une fascination pour les gros lolos et ils en mettent partout dans les jeux.
Tout à fait. Ce qui est dommage, c'est que Dead or Alive, à la base, est une excellente série de combats. Ça a commencé à un peu dégénérer quand ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient développer la physique et spécifiquement...
La physique féminine.
La physique des attributs féminins pour que ça rebondisse. T'as même dans Dead or Alive 5, le jeu de combat, qui est super le fun, mais dans les paramètres, t'as l'option genre... Pour les seins, t'as le réalisme, t'as aucune physique ou t'as la physique Dead or Alive qui rebondit un peu trop. Fait que tu peux choisir la physique de ton choix. C'est un peu particulier, c'est très japonais. Eux, évidemment... Ils se défendent, comme par exemple quand ils ont décidé de sortir Dead or Alive 5 Last Round sur PC, ils ont dit « Bon, là, les modeurs, là, vous êtes mieux d'agir selon la bonne morale, sinon on sortira plus de jeu sur PC. » C'était la première fois qu'ils faisaient ça. Donc, il y a le producteur du jeu, Yosuke Hayashi, avait dit « Nos personnages, hommes et femmes confondus, ont été créés dans un cadre fantastique et démontrent des capacités extraordinaires en rivalisant les uns avec les autres dans un univers inimaginablement léger et over the top. Leurs capacités sont très équilibrées et nous voulons présenter celles-ci d'une façon aussi dynamique, forte, sexy et confiante que possible. »
Voilà.
C'est sûr qu'ils ne se prennent pas au sérieux avec ce jeu-là, mais... Sauf moi, que... mon malaise avec Extreme, c'est qu'au début, c'était un jeu de volleyball.
Ouais.
Là, c'est rendu un paquet de mini-games. Il y a genre des combats de fesses.
Ouais, on joue à push for fun.
Ils ont un simulateur de bronzage.
Ouais.
Comme ça, tu peux mettre ton personnage sur la plage pendant un certain temps, puis elle devient plus foncée. Puis là, la trace de bikini, selon le bikini qu'elle avait, est différente. En tout cas, les niaiseries de même. C'est un peu décourageant.
Mais c'est si tu regardes tout ce qui se fait dans le niveau du manga.
Il y a pire. Il y a pire au Japon, c'est clair.
Ils sont vraiment. Vas-y, monsieur.
C'est typique japonais, en fait, là, dans les mangas. Il y a une fixation des fois pour les filles, puis ils réduisent tout le temps à une espèce de position de petite fille, la façon qu'ils s'expriment. Surtout dans les. Je pense que ça s'appelle les Shoyen, c'est les BD pour les jeunes garçons. Tout le temps la même thématique. Pensez à Dragon Ball, le nouveau qui doit se dépasser, puis là, bon, il faut qu'il convainque ses ennemis qu'il est meilleur. Les femmes là-dedans, c'est tout le temps comme des cheerleaders, à un niveau presque enfantin. C'est typiquement japonais, malheureusement.
Ben moi, quand je suis allé, on les voyait, ces espèces de petites soubrettes qui nous attendaient, habillées justement en femmes de chambre. Puis tout. Ça fait drôle. Ça, c'est un clash culturel.
C'est particulier. C'est pas propre à tout ce qui est japonais. Il y a quand même des animés qui ont de l'allure avec des personnages féminins. J'en ai vu plein. Mm-hmm. Je suis convaincu que leur équivalent manga est pareil. Mais. Oui, ça peut clasher quand tu tombes sur justement l'autre portion qui est peut-être un peu moins occidentale dans son esprit.
Mais même ici, lorsqu'on fait des jeux pour des pays étrangers, on va faire attention. On parlait des autobus dans un pays qui ne sont pas jaunes, qui sont une autre couleur. Donc, si on adapte un jeu pour enfants, il faut prendre soin de mettre les bonnes couleurs sur les...
Mais eux, ultimement, ils décident de ne pas adapter leur jeu. Puis la PS4 n'est pas verrouillée. Fait qu'ils savent que les fans, de toute façon, de ces jeux-là, s'ils veulent l'avoir, ils vont aller sur PlayAsia, ils vont le commander à genre 70$, puis ils vont le savoir par la poste, ça va être réglé.
That's it. That's
c'est pas le genre de jeu qui a beaucoup de texte, puis que c'est si important que ça, comprendre la langue, je pense.
Comprends pas l'histoire.
Ah, c'est
il y a un combat de péteux. Les combats de péteux, ça part de où, ça, là?
Ah, c'est mystérieux.
Parlant de mystérieux, il est là avec nous, mesdames, messieurs.
Oh!
As-tu vu le lien, toi, ça? Pour ceux qui suivent à la maison, c'est un lien, il s'en vient de faire un lien.
Pas.
Il se gratte la barbichette. J'aimerais ça que tu nous parles. J'ai des questions concernant Batman et Superman.
Moi aussi, j'en ai.
OK, je suis content. Veux-tu qu'on regarde la première bande-annonce ensemble, histoire de mettre la table?
On va l'écouter.
Attends, on va les écouter les trois?
Non, y en a-tu deux ou trois? Ça, c'est une autre question.
C'est pas le troisième qui est sorti aujourd'hui?
C'est marqué trois dans certains sites, mais c'est deux. J'ai fouillé, puis on s'est parlé, on s'est posé la question.
Il doit y avoir une version télévisuelle qui est peut-être raccourcie, ou il y a peut-être une version... En tout cas, Benoît, tu le sais.
Il y a un aperçu, un teaser.
OK.
Il y a eu la première bande-annonce, ce qui est sorti hier soir, c'est la deuxième
bande-annonce.
Donc. Écoutez, les deux bandes annonces, on va laisser faire l'aperçu. On met la table et on en discute avec notre expert, mesdames, messieurs, Benoît Mercier. Quel homme. Il est tellement beau en plus. C'est le batteur. Hein?
Ouais.
Today is a day for truth. The world needs to know what happened and to know what he stands for. That kind of power is very dangerous. Let the record show that this committee holds him responsible.
That's how it starts. The fever. The rage that turns good men cruel.
This bat vigilante is like a one-man reign of terror. You don't get to decide what the right thing is. Nobody cares about Clark Kent taking on the Batman.
This means something. It's all some people have. It's it's all that gives them hope.
People hate what they don't understand. Be their hero, Clark. Be their angel. Be their monument. Be anything they need you to be. Or be none of it. You don't owe this world a thing. You never did.
Do you know the oldest lie in America, Senator? The devils don't come from hell beneath us. They come from the sky.
20 years in Gotham, how many good guys are left? How many stayed that way? He has the power to wipe out the entire human race.
The red capes are coming.
Bon. Benoît, aide-nous à comprendre ce qui se passe là-dedans. Là, écoute, la chicane est pognante les deux. Y'a-t-il une femme derrière ça? C'est quoi l'histoire? Est-ce que deux Superman, la petite couette, il l'a pu? Comment ça fait qu'il réussit à planter Batman? Est-ce que Batman le plante? Est-ce que c'est un combat perdu d'avance? Autant de questions auxquelles j'aimerais avoir des réponses.
OK, si tu peux un peu démêler tout ça. En 87, ouais. Fin des années 80, il y a une BD qui s'appelait Batman de Dark Knight Returns.
Ouais.
Plaçant Batman plusieurs années plus tard, vieillissant, vieux bonhomme, un Bruce Wayne qui avait pris sa retraite, qui revenait, qui reprenait du service, si vous voulez. Et la BD culmine sur une confrontation entre Superman et Batman. Donc, l'espèce de vieille tradition de qui gagnerait entre les deux, ça part principalement de ça. Ça, c'est comme la, dont tu as vu la bande-annonce, c'est Batman v Superman Dawn of Justice, qui est le nom le plus long de sa planète. Là. Ça, c'est inspiré de cette série-là, mais ce n'est pas basé directement sur la série.
Bon.
Donc, dans l'univers cinématographique de Warner Brothers, de DC Comics, Gotham City et Metropolis sont deux villes jumelles. Quand Metropolis se fait attaquer dans Man of Steel, le dernier film de Superman, bon, Gotham City aussi est atteint. Et je pense que ça met à joie le vert Batman, qui est joué par Ben Affleck, et dans celui-ci, décide de se venger. C'est une pas pire bande-annonce. Moi, j'avais pas aimé le Man of Steel. J'avais trouvé ça assez quelconque, assez adolescent. La bande-annonce me donnait espoir, mais il y en a sorti une autre hier. Puis celle-ci est comme weird. Il n'y a pas d'autre qualificatif. Elle est juste vraiment étrange.
On va la regarder, tiens. On va regarder ça là-dessus. C'est weird un peu.
That's him right there. There he is. Get a shot.
Who's that? You must be new. That is Bruce Wayne.
Mr. Wayne, Clark Kent, Daily Planet.
What's your position on the Bat Vigilante in Gotham?
Civil liberties are being trampled on in your city. People living in fear. He thinks he's above the law.
Daily Planet criticizing those who think they're above the law is a little hypocritical, wouldn't you say? Considering every time your hero saves a cat out of a tree, you read a puff piece editorial about an alien who could burn the whole place down.
Most of the world doesn't share your opinion, Mr. Wayne.
Maybe it's Gotham City and me. We just have a bad history with freaks dressed like clowns.
Wayne meets Clark Kent. Ah, I love it. I love bringing people together. How are we?
Lex.
Hi, hello. Lex, it is a pleasure. Ow, wow, that is a good grip. You should not pick a fight with this person.
Hey,
You know the oldest lie in America, Senator? That power can be innocent.
You're gonna go to war. That son of a bitch brought the war to us. You know you can't win this. It's suicide.
The greatest gladiator match in the history of the world. Son of Krypton versus Bat of Gotham.
You're psychotic.
That is a three-syllable word for any thought too big for little minds.
It's time you learn what it means to be a man.
Stay down! If I wanted it, you'd be dead already.
If man won't kill God, the devil will do it.
What have you done? Oh,
bon. Wonder Woman, toi, chose?
She with you.
I'll get deal. I don't think I'll let Wonder Woman.
Bon, là, ça va ça à peine. Ça va-tu à peine?
Ça finit plus, mais
ça arrête plus. Ça va-tu à peine d'aller voir le film ou bien de le voir, là?
Je sais pas, j'essaye de pas juger un film par sa bande-annonce. Donc, à chaque fois, personne n'a vu ce film-là.
Non, c'est ça.
Personne n'a encore vu des premières scènes, puis on l'a pas écouté. Mais si je peux juste juger de cette bande-annonce-là, je trouve ça vraiment bizarre. Il y a pas de rythme, on vend rien. La première faisait beaucoup plus la job. Il essaie d'instaurer une espèce d'aspect humoristique qui fonctionne pas du tout avec le côté très, très sombre de l'image et de l'univers dans lequel c'est ancré. Fait que je sais pas, je suis sûr que J.C. Eisenberg a l'air de jouer une espèce de Joker mélangé avec Jim Carrey.
Mais là, est-ce qu'il est supposé d'être Lex Luthor?
Ouais, c'est Lex Luthor, littéralement.
Ouais.
Ils se l'ont approprié, puis ça me dérange pas nécessairement, mais... Je sais pas, il m'énerve, j'ai rien vu encore, puis il m'énerve, c'est rare qu'une bande-annonce comme ça, je trouve qu'elle fait vraiment pas la job de nous vendre le film.
Puis il y a même Anne-Marie Lozic dedans.
C'est quelqu'un qui a écrit sur le chat.
C'est ça, j'ai vu.
La sénateur américaine, il a l'air d'Anne-Marie Lozic. Ben écoute, peut-être, je sais pas trop quoi en penser, mais ça s'en vient, c'est le 25 mars 2016, Ben Affleck est là en tant que Batman, je trouve qu'il a l'air à faire une belle job.
Ouais.
Henry Cavill qui joue Superman une fois de plus. Gal Gadot qui prend le personnage de Wonder Woman, première apparition sur le grand écran, et J.C. Eisenberg qui joue Lex Luthor ou un genre de Lex Luthor. Ce qui est plate aussi, c'est qu'on nous vend toutes les punches. On voit que t'es là.
Non, mais c'est classique des bandes-annonces. Star Wars n'est pas tellement mieux. Là,
non, mais c'est ça. Mais là, on sait qu'ils vont se réconcilier éventuellement parce qu'ils disent j'avais voulu te tuer, je l'aurais fait. C'est fucking Superman. Il peut faire ce qu'il veut, il fait arrêter à terre, il revient ça de bord. L'autre, il y a un petit saut. Oh, la misère.
C'est correct, mais je ne sais pas ce qu'on essaie de me vendre. T'sais, j'écoute Star Wars, je sais ce qu'on essaie de me vendre. J'écoute une bande-annonce comme, je ne sais pas moi, n'importe quoi.
Civil War.
Là, c'est. Il coupe ça, il coupe la tension avec une espèce de comedy relief bizarre, dialogue extrêmement cliché. J'ai l'impression qu'on vit en 97 quand on essayait de faire des films de super-héros, puis on ne savait pas trop comment les adapter. Ça a l'air d'une série des années 90, poche en BD, qui ont adapté au cinéma. Là, je me base sur la bande-annonce. Le film comme tel, j'en ai aucune idée. Mais la bande-annonce, mon Dieu, je ne sais pas qui l'a édité, mais très mal exécuté quant à moi.
Une chance, t'as dit que tu critiquais. Ben là, c'est correct. T'as dit que c'était la bande-annonce, c'était pas le film.
Ben non.
Mais c'est drôle comment on vit à une époque. J'étais un peu tanné de voir la naissance des super-héros. Puis je veux dire, moi, ça me gosse. Ben Affleck, oui, il a l'air de faire une bonne job, mais on vient d'avoir la trilogie de Christopher Nolan. Là. Ça m'énerve qu'ils changent rapidement. Ils font comme Marvel. T'sais, on fait trois Spider-Man, puis non, fuck off, on recommence trois Amazing Spider-Man. Même affaire. On fait deux Hulk de suite, huit Godzilla. Je comprends plus rien, en tout cas.
Les reboots. En même temps, Spider-Man, c'était Sony, fait que c'était pas directement Marvel.
Ouais,
Marvel.
Non, je le sais, mais Amazing Spider-Man, c'est Marvel?
Amazing.
Ouais. Ben, c'est le personnage de Marvel, mais c'était Sony. Quand,
c'est Sony dans les deux cas.
4, le projet de Spider-Man 4, Sam Raimi était supposé être attaché au projet. Finalement, il a abandonné. Tant qu'à repartir à zéro, ben, on va le faire avec un nouveau réalisateur, un nouvel univers. Les deux films de Spider-Man ont ont fait de l'argent, mais ils n'ont pas pogné tant que ça. Puis c'est ça qui a fait qu'ultimement, Marvel était capable de rentrer là-dedans. Ils se sont dit, OK, on va incorporer le personnage, on va faire un deal. Les recettes, ça va se passer comme ça. Mais on va inclure le personnage dans l'univers de Marvel. Donc, le prochain Spider-Man, c'est encore une espèce de refonte, mais qui va être inclus dans l'univers consensuel de Marvel qu'on va exploiter depuis 2007-2008 au grand écran.
Mais là, on commence à introduire des personnages qu'on connaît moins. Ça, c'est la tendance en ce moment. On ramène des vieux. À mon avis, la photo qui résume le mieux le film en ce moment, c'est celle-ci. Attends un peu, regarde ça. Wonder Woman.
La dernière image
avec son gun, l'autre son glaive, puis Superman avec son toupette. Mais on comprend ce qui arrive.
Il va y avoir Aquaman quand même dans le film. Il va y avoir Cyborg. On n'a pas fini. Il va y avoir d'autres personnages qui vont être introduits.
Okay. Ouais.
Je pense que je préfère quand même... Tu sais, même si ça s'appelle Batman versus Superman, je pense que je préfère l'approche de DC où, que oui, éventuellement, ils vont se réconcilier parce qu'il y a des gros pas fins. Puis ça fait très américain, là, genre, il y a les méchants, il y a les gentils.
Ouais.
Il y a quelque chose de mêlé comme Civil War, de Iron Man Civil War, machin, là, où ce n'est pas clair qu'est-ce qui va arriver. Mais en tout cas, bon... Je sais pas. Moi, j'étais habitué de voir des films de super-héros où le super-héros genre découvre ses habiletés, puis là il se fait un saut, puis là il devient le super-héros ultime à la fin. Puis c'est toujours la même histoire. Je commence à être tanné, mais là c'est rendu genre la mode des chicanes. Faut qu'ils chicanent entre eux. Comme,
Mais ça c'est typiquement bande dessinée.
Tout à fait.
Ouais, on verra bien. Les compagnies ont une historique de suivre. Je veux dire, quand Marvel, le fait que Captain America mourait dans ses BD, DC a fait la même chose avec Batman. Je veux dire, c'est des gens qui côtoient les mêmes auteurs, les mêmes dessinateurs. Fait que, veux pas, ils suivent par la force des choses. C'est peut-être dans l'air du temps, c'est peut-être le zeitgeist. Moi, j'ai une préférence pour Marvel au grand écran. Je trouvais qu'ils sont capables de mélanger à la fois l'action, la comédie, puis ça fonctionne plutôt bien. Puis quand ils veulent vraiment aller sombre, ben, ils font les séries Netflix comme Daredevil.
Tout à fait.
La télé, du côté DC, c'est l'inverse. Au Arrow, DC, Supergirl, c'est très, très lumineux. Et là, on se sent d'aller d'un côté plus sombre avec Man of Steel, éventuellement Batman v Superman.
Mais attends, la série Gotham, je pense qu'elle est équivalente. Je ne l'ai pas vue encore, là, mais elle m'apparaît équivalente à Jessica Jones au niveau de la sombritude.
La sombritude, oui.
Ouais.
Non? Ça a l'air très sombre, oui, en effet. Okay. Je ne sais pas s'ils vont faire des trucs qu'ils font dans Jessica Jones. Jessica Jones a quand même poussé l'enveloppe sur des trucs qu'on ne voit pas habituellement à la télé, à part dans HBO.
Mmh. Oui, c'est vrai. Non, c'est très... Non, sans spoiler, c'est très HBO plus que DC pourrait l'être, je crois. Parce Absolument. Que DC, ça reste D'accord. toujours plus ouais. clean, on tue personne. Puis...
En tout cas, ça French, puis ils ont du fun. Dans
on
Jessica
va le voir,
Jones.
Je vais vous en parler, Denis. Fait
ouais.
que,
ouais, merci beaucoup de me rassurer. Je pense pas. C'est comme dans les jeux vidéo. On dirait que c'est un entre-deux, ce film-là. Tu sais, c'est comme un
pour... c'est le Battlefront.
Oui.
Il y a des gens qui aiment ou qui n'aiment pas.
Ah,
oh, j'aime ça.
On pourrait faire un excellent segue si on avait une nouvelle concernant Battlefront.
Oui, on n'a pas. Malheureusement, pas de nouvelles de Battlefront. Mais on a une nouvelle concernant YouTube qui va aller jouer d'un tal à Netflix, M. Laurent Lassalle.
Tout à fait. Il y a le fameux Wall Street Journal.
Oui.
Qui a entendu des sources lui raconter que des dirigeants de YouTube seront pour parler avec des studios cinématographiques et des producteurs télévisuels dans le but d'obtenir des droits de distribution à la Netflix de contenu digne d'Hollywood. Parce que bon, il faut dire qu'en octobre dernier, on a eu YouTube Red.
Ouais.
Avant le dévoilement de YouTube Red, il y avait quand même... On savait que ça allait coûter une dizaine de dollars par mois, puis là, on s'imaginait quel type de contenu, quelle sera la promesse, parce que juste enlever les pubs de YouTube, c'est pas assez. YouTube a effectivement dit qu'il allait avoir des productions originales, mais c'est des productions très liées avec les utilisateurs très populaires de YouTube, tu sais, les gens qui ont fait leur marque là-dessus, leur renommée. Puis c'est rien de vraiment propre ou semblable à ce que Netflix propose. Mais là, on a des dirigeants de YouTube, puis... qui se rend pour parler. Là, déjà, à la base, c'est comme, ouais, OK, Google a des bons contacts avec cette industrie-là, ouais. parce qu'elle vend déjà sur Google Play et sur YouTube des contenus, des films, des mm-hmm. téléséries. Non seulement ça, c'est que les personnes en question, c'est Kelly Merriman et Robert Kilknc.
Qui sont qui, ça?
K-Y-N-C-L, je ne sais pas comment le prononcer, mais c'est des anciens cadres de Netflix qui étaient responsables notamment de l'assemblage du catalogue de contenus et de l'acquisition des contenus.
Donc, en fait, le saut l'autre bord, eux autres, sont partis.
Eux ouais. ça fait déjà un bout qu'ils ont ouais. été absorbés, mais là, on sait que c'est eux qui sont en pourparlers avec les compagnies. Fait que je pense qu'ils connaissent ça.
Ils ont des contacts.
ils savent... Non, mais c'est pas juste d'avoir des contacts.
Non, ben, je blague,
l'expérience
là.
De négociation, ben, ouais. Là, ils savent comment... Genre, Universal est peut-être plus... genre, plus pointu sur tel aspect. Mm-hmm. Warner sont peut-être plus slack sur d'autres. Tout ce genre de secrets, de coulisses, ben, eux, ils savent ça. Donc,
penses-tu
ça
que c'est le consommateur qui va en bénéficier ou, encore une fois, on va
ben,
absorber
c'est,
des...
C'est toujours... non, d'après moi le plus il y a de concurrence, plus on va en bénéficier. Ouais. J'ai pas l'impression, déjà là, Google est
mais
pas,
rappelle-toi qu'il y a des meetings
reconnu.
Il y a des meetings à Vaudreuil hein, qui se font. C'est la place pour aller où toutes les compagnies se réunissent et établissent des barèmes de prix. Tu sais pas quoi de ça. Hein?
À Vaudreuil.
Oui, on a mis ça à jour il y a quelques années à Radio Talbot. Tu n'étais pas dans l'équipe dans ce
non.
temps-là. Oui, ils se rencontrent, ils vont jaser. On avait surpris un meeting d'ailleurs avec toutes les head boss assis autour d'une table en train
avec
de discuter.
Avec une caméra, vous
live.
Étiez sur Quick Live.
Live.
Non, c'est pas ça.
Man, là, ils vont jaser puis ils établissent, je pense, la norme des prix. Écoute-moi, je mettrais 12$. Toi, ils vont mettre 11,99$. OK, 11,99$, toi aussi.
Tout ça.
Collusion,
dire...
pensez-vous qu'il y a de la collusion?
Tout ça pour dire que ça pourrait s'en venir, puis que c'est pas tellement surprenant parce qu'Apple aussi,
Vaudreuil.
Ça fait longtemps
Vaudreuil.
Apple traîne à Vaudreuil puis essaye de dealer ses patentes pour l'Apple TV parce qu'ils veulent faire exactement la même chose. Il y a quelqu'un justement le mois dernier de CBS qui en a reparlé. Donc ça traîne, c'est dans l'air du temps. Netflix, c'est bien beau aujourd'hui, mais ça se peut qu'on ait, on ait des concurrents. Puis je veux dire, pour les gens qui aiment le contenu francophone, qui sait peut-être que Google, en s'introduisant sur le marché canadien, une fois qu'ils vont être prêts, ben peut-être que l'offre francophone va être plus intéressante.
Que vous voulez dire là-dessus, monsieur?
Peut-être que Netflix va devenir le Yahoo d'aujourd'hui.
Oh!
Ah là, tu me fais mal à mon petit cœur.
Dans c'était hot, mais maintenant, qui va utiliser ça, Yahoo?
C'est quoi, Yahoo?
Voyons, t'es pas si jeune que ça.
Je niaise, parce qu'il y a des gens qui connaissent pas ça, peut-être.
Mais
fait que, il n'y a pas de date pour ça, ton histoire, là. C'est juste des pourparlers, c'est des rumeurs.
C'est,
ça, puis
c'est très, très balbutiement.
Oui, ça balbutie. On aime ça quand
ça balbutie.
Parlons-nous un peu de Lucasfilm, monsieur Mercier. Merci. Paraît-il qu'on est à la recherche d'un prochain Yann. Yann, on va dire comme l'autre, j'ai entendu ça à radio dans une certaine... Non, Yann Solo, comme j'ai entendu à radio.
Ben, quand j'étais petit, je l'appelais comme ça. Je suis pas mal sûr qu'il y a plein de Québécois qui l'appelaient Yann Solo.
Ouais, mais quand t'étais un chroniqueur techno, t'es supposé
savoir
que c'est
effectivement.
Han Solo.
Han.
Han.
Ben, bon, hey. ça surprend personne, on l'avait annoncé.
Non, attends une minute, c'est lui qui était pris dans le kryptonite. OK, c'est une joke.
Non, arrête avec tes
insights.
OK, c'est bon.
Ah oui, attends, kryptonite. Non, kryptonite, c'est du carbonite. Kryptonite, c'est la fin de Superman.
Non, c'est parce que j'ai entendu ça à la radio. J'ai entendu ça à la radio. La personne s'est trompée.
Ah oui. Okay.
C'était Luke Skywalker qui était pris dans la kryptonite.
Mm-hmm. Comment tout mêler les cartes.
Voilà. En tout cas, c'est une parenthèse.
C'est Spock qui l'a libéré, si je me souviens bien.
Ah, c'est ça!
C'est ça. Nice. Alors qu'il se cherche un Han Solo plus jeune, quoi?
Ben oui, Han Solo, parce que bon, ça n'a pas été une surprise pour personne, mais il y a un film dérivé qui va mettre en scène un jeune Han Solo qui est en préparation. Ce qui est vraiment cool par rapport à ce projet-là, c'est que c'est Phil Lord et Chris Miller, les réalisateurs de 21 Jump Street, 22 Jump Street et de The Lego Movie qui sont derrière ça. Ils vont co-réaliser le film. Là, semblerait-il que du côté d'Hollywood, Lucasfilm et Disney ont rencontré 2500 candidats potentiels pour incarner, pour remplacer finalement Harrison Ford, qui est rendu à 73 ans. Oui, Harrison Ford va être de retour dans Star Wars The Force Awakens, mais il est un petit peu vieux pour jouer lui à 20 ans. D'ailleurs, c'est à peu près l'âge qu'on recherche pour l'acteur, quelqu'un début vingtaine, maximum fin trentaine. Bon, c'est pas compliqué. Quelqu'un de charismatique, quelqu'un capable de faire des blagues et de jouer ses propres scènes d'action. Ça va quand même aller assez vite parce que le tournage de Han Solo va débuter en janvier 2017. Autre truc vraiment le fun par rapport à cette nouvelle-là, c'est que c'est Lawrence Kasdan et John Kasdan qui vont co-écrire. Donc, le père et fils et Lawrence Kasdan, c'est lui qui est en train de co-écrire, entre autres, The Empire Strikes Back, Return of the Jedi, et il a fait le scénario avec J.J. Abrams de The Force Awakens. Il y a quelques acteurs en ce moment qui ont déjà passé l'audition d'Odem Franco, le frère de James Franco. Vous avez Miles Teller qui joue entre autres dans Whiplash et dans le tristement célèbre Fantastic Four qui pue. Et Aaron Taylor Johnson de Kick-Ass et récemment dans Age of Ultron, il jouait Quicksilver. Moi, j'ai une préférence pour Chris Pratt, mais ça ne semble pas être
l'unanimité.
Favori. Puis je pense qu'ils vont prendre quelqu'un de relativement inconnu parce que remplacer Harrison Ford, là,
c'est quelque chose.
Ça va vraiment pas être évident.
Gars, il y en a un ici qui a été pressenti. Attends un peu, je me souviens plus de son nom, je vais te dire ça. C'est Ansel. Voyons, attends un peu, je me souviens plus de son nom, je vais vous dire ça. Ansel and Gretel. Non. Ansel Elgort qui a été choisi. Il ferait un beau petit Han Solo, non?
Oui.
Puis... Moi, je veux un sosie.
C'est bien un sosie, c'est impossible.
Non, mais pour trouver quelqu'un qui ressemble... On dirait que c'est jamais... Ah non, c'est pas important, on va aller chercher des grands noms. Là, déjà, que Ben me dise que ça sera sûrement quelqu'un de moins connu, ça me laisse croire qu'ils vont peut-être essayer de trouver quelqu'un qui look aussi un peu.
Ouais, mais Chris pas, Pratt, là, regarde, Chris Pratt, il me semble qu'il fait un beau...
Une grosse tête, il me semble. Regarde ça. Non. Prenez
ça
pour que ça soit pareil.
Ou c'est un plus vieux Doogie Howser. Tu trouves pas? Non?
Mais il veut quelqu'un de plus jeune. Là. Il veut vraiment quelqu'un de début vingtaine là, ouais. pour dire, bon, qui okay, cet acteur-là, à cet âge-là, il avait l'air de ça. Puis plus tard, il devient Han Solo, puis il est un peu plus différent.
Là. Il y en a un autre aussi.
Ils vont prendre un inconnu, parce que sinon, on va juste associer ce visage-là à quelqu'un d'autre.
Ouais. Mais non, il est trop vieux.
Il y a lui ici qui a été pressenti. Il y a Rami Malek qui a été apparemment pressenti pour jouer le rôle. Dans quoi il a joué, lui? Je ne sais pas trop. Il y a aussi... Il fait peur. Il y a celui-là aussi. Il est un peu Ben, je le montre en même temps. Non, lui, je trouve qu'il fait pas le job. Lui, c'est Miles Teller.
On dirait une vieille photo.
C'est ça. Ben, je pense qu'on a joué là-dessus un peu. Puis je pensais que c'était James Franco, mais c'est son frère. Ça. En tout cas. Ouais. Alors,
c'est Dave
Franco. Dave Franco. Alors...
Et moi, je veux juste James Franco en junior, fait que j'espère qu'ils ne vont pas prendre lui. Mais c'est pas surprenant qu'il ait fait l'audition parce que jouer dans 21 Jump Street, le film de Phil Lord et Christopher Miller.
On le voit, James, là, avec son sourire. Monsieur Selfie, souvenez-vous de ça. Ça fait un petit bout.
Qu'importe qu'il y en ait, Denis, c'est, je veux dire, on va juste voir Harrison Ford. J'ai presque un souhait qu'il fasse comme dans Tron Legacy, qui appose le visage plus jeune de l'acteur sur quelqu'un
non.
de nouveau. Là.
Non.
Ben, la technologie est rendue là. Tu sais,
ben genre, oui.
Dans Tron, ça marchait quand même plutôt
dans
bien.
Tron, oui, mais le X, c'est que dans Tron, ça marchait étant donné que c'était un personnage virtuel. Il n'était pas vraiment humain. C'était super bien fait. Mais tu sentais toujours l'espèce de « ça a l'air fake ». Même affaire avec Terminator, quand ils ont mis le jeune Arnold, ben c'est correct, c'est un robot, fait que ça passe. Tu sais. Je sais pas, mais ça serait le fun.
Le jeune
que ça serait le fun.
Arnold, ça marchait plutôt mal, mais l'entre-deux Arnold, celui de Terminator 2, je trouvais... Moi, sur le coup, j'ai pas réalisé que c'était des effets spéciaux.
Ah oui, mais ils ont truqué parce qu'ils ont pris une image qui venait carrément de Terminator 2. Ils ont juste modifié un peu le background. Ouais. Mais pour d'autres scènes, oui, effectivement, c'était vraiment bien fait.
Mais j'ai hâte de voir. Harrison, il a son style bien à lui.
Tout à fait. Irremplaçable Harrison Ford que Ban Blit Custard Turtle dit dans le chat.
Oui, je suis d'accord. Mais si ça peut vous rassurer du côté de Indiana Jones, Steven Spielberg a dit qu'il ne veut pas recaster, donc reprendre un nouvel acteur pour remplacer Indiana Jones. Donc,
est-ce qu'on va continuer avec son fils? Est-ce qu'on va continuer avec son fils ou...
Non, on veut continuer avec Harrison Ford.
OK, c'est correct.
Bon, on va suivre ça. Intéressant. Encore une fois, une suite. Mais c'est là, c'est plus des suites, ça se passe avant. C'est des antépisodes.
Ouais.
C'est la mode.
Bon, parles-tu de Creed?
Non. Tu veux parler de Creed?
Mais non, mais c'est parce que tant qu'à parler de suite, ouais. Ça, c'est comme la Rocky 7 ou je sais pas trop. Là.
Non.
Paraît que c'est bon.
Là... Ouais, paraît que c'est bon. J'ai entendu la même chose. Je suis curieux.
Ouais, on va regarder ça. J'aimerais ça qu'on parle, monsieur Mercier. Non, monsieur Laurent. Oui. Paraît-il qu'il y a eu des plaintes faites contre les fournisseurs d'accès Internet un peu partout à travers le Grand Canada?
Le Grand Canada.
Qu'est-ce qui se passe avec ça? Pourquoi les gens se plaignent? Est-ce qu'on se plaint ce qu'on appelle communément du throttling, de l'étranglement des services?
Non, c'est pas.
On devrait se plaindre de ça. Est-ce qu'on peut se plaindre de ça? Je me plains un petit peu de ça. Est-ce que je peux juste m'affirmer quelque chose? Je me plains de ça officiellement ce soir. C'est un statement. I am plaintating.
Pas sûr qu'ils vont comprendre si tu parles de même.
OK.
Donc, c'est le commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunication,
ouais.
Un OBNL qui a été créé et financé par l'industrie qui, chaque année, après chaque période de 12 mois, remet son rapport en décembre. Et il y a eu une baisse des plaintes pour les entreprises, pour les services de télécommunication at large.
Ouais.
On est passé de 11 340 plaintes reçues la même période l'an dernier à 9 988. Donc, ça va bien. Mais... la portion qui concerne les services des fournisseurs d'accès Internet a augmenté. En fait, c'est passé de 20 % à 26 % la portion plainte.
Et les gens se plaignent de quoi?
Ils se plaignent pas du throttling. Ça, c'est peut-être un peu trop pointu.
Tu sais que...
Je sais pas si ça rentre dans les barèmes parce que c'est quand même... un organisme qui est conçu pour aller discuter directement avec l'entreprise puis essayer de faire la part des choses, de faire une enquête et déterminer quand il y a des infractions par rapport au règlement, au code du CRTC, des choses comme ça. Mm-hmm. Puis généralement, il y a des ententes qui se font. Puis d'ailleurs, c'est quand on lit le document, il donne des exemples précis de fois où ils ont vraiment fait une différence. Donc ça, c'est intéressant. Mais ça reste que... Quand il faut que tu deals avec ton fournisseur d'accès, puis après ça, que tu passes par un bureau séparé exprès pour les plaintes, puis là, tu attends plusieurs mois avant de te faire rembourser, ça gosse. Donc, les deux principaux problèmes étaient la surfacturation et l'augmentation du tarif sans préavis ou en violation avec une entente préétablie. Il donne un exemple d'un fournisseur d'accès qui promettait un Internet 300 gigs de données comme bande passante à 45 $ par mois et une protection de prix qui garantissait que ce tarif-là n'augmenterait jamais pendant 8 ans.
Et?
Mais il a augmenté. Il y a eu une augmentation surprise de 3 $ par mois parce que en réalité, selon le fournisseur, ça devait être 200 gigs et non 300 gigs. Mais là, finalement, ils ont crédité justement les utilisateurs qui se sont plaints. Puis ceux-ci pouvaient résilier leur service.
Est-ce qu'il y a eu recours collectif ou ça s'est...
C'est pas un recours. C'est comme l'étape avant le recours collectif. Okay. Le recours collectif, c'est vraiment la dernière étape quand l'entreprise est bornée puis veut vraiment rien savoir. Là, on a des exemples d'entreprises qui quand même semblent répondre et communiquer bien avec cette entité-là.
Maintenant, attends, sur Branchez-vous, t'as sorti ce tableau-là. C'est quoi?
Super palmarès.
Qu'est-ce que c'est?
Ça, c'est... les entreprises les plus touchées par toutes les plaintes.
Okay.
Puis évidemment, on ne s'étonnera pas de voir Bell Canada au premier plan. Ce n'est pas parce que c'est une mauvaise entreprise particulièrement. C'est aussi parce que c'est une grosse entreprise et que son bassin d'utilisateurs...
Là,
on parle de téléphonie résidentielle, on parle d'Internet, on parle de télévision, on parle de services mobiles. Donc, c'est clair que c'est une grosse entreprise. Il reste quand même au premier plan, mais c'est sûr que plus tu as d'utilisateurs, plus tu es susceptible... d'être ciblé par des plaintes. En deuxième position, on voit Rogers. Et en troisième position, c'est Wind Mobile. Ça, c'est une entreprise, je crois, de l'Ouest. D'ailleurs, cette entreprise-là a représenté 422 violations des 582 au total, donc presque le trois quarts des violations qui concernaient le nouveau code du CRTC. Je ne sais pas si tu te rappelles, l'an dernier, il y a eu un nouveau code, 24 mois la durée des contrats, un paquet de conditions comme ça qui sont vraiment bénéfiques pour les consommateurs. Ben, l'entreprise qui a moins respecté ça, qui a été plus souvent reconnue en violation de ces conditions-là, ben, c'est Wind Mobile. Voilà.
Il y en a des pires.
Il y en a des pires, c'est sûr que quand on regarde des fois chez le voisin, on se dit on n'est pas si pire que ça. Mais c'est sûr que, bon, je ne vais pas défendre l'état de l'Internet au Canada comme tu parles de throttling. On est loin d'avoir rapport qualité-prix d'être équivalent à bien d'autres places.
On va garder notre bonne humeur.
Ouais, non, on est de bonne humeur, on a de la bière.
Hey, gracieux, hey, ce soir.
Malte.
Oui, merci. Si on boit ce soir, laissons voir parce qu'il faut payer les billes. Ce soir, nous buvons de la Effenweizen, une bière de blé bavaroise.
La ale de blé bavaroise, c'est la même que j'avais mardi, puis tu me l'as offert tantôt, puis j'ai fait
yeah.
Parce que effectivement, elle est délicieuse. Malheureusement, Benoît, il n'y en a pas.
Que veux-tu? Il est au vin rouge ce soir. Prends un petit vin tranquillement, un verre de vin, en discutant. J'aimerais ça, Benoît, qu'on parle justement du retour d'une série intéressante là, qui a marqué la jeunesse de bien des gens et on veut la refaire. C'est quoi cette série-là exactement?
C'est Samurai Jack, qui est un dessin animé qui va faire son retour en fait après 12 ans d'absence sur la chaîne Adult Swim. Ça va être diffusé à partir de 2016. Et ce qui est intéressant, c'est que le créateur et le showrunner, donc le producteur, celui qui est en charge de la série, je vais essayer de dire son nom sans me tromper, le Gwendy Tartakovsky est de retour à la barre de la série. C'est lui qui avait entre autres fait aussi les essais d'antépisodes à Star Wars, Clone Wars, en dessin animé, dans le style de Samurai Jack. On ne sait pas, par contre, si les acteurs qui ont incarné les personnages à l'époque vont revenir, comme Phil Lamarr, qui incarnait le samouraï. Il faut dire que l'ennemi de Samurai Jack, le fameux Aku, le démon Aku, qui était joué par un acteur qui s'appelait Mako, est décédé en 2006. Donc, est-ce qu'ils vont prendre une autre voie? Est-ce qu'ils vont aller dans une autre direction avec ça? Ça, on ne le sait pas. Mais ça va réjouir quand même bien des gens. Écoute, ça a été diffusé pendant 3 saisons, 52 épisodes. C'est super bien animé. C'est beau. Ça s'adresse autant aux enfants qu'à un public un peu plus vieux. Et écoute, moi, je suis bien content de revoir ça éventuellement.
C'est quand même récent, là. C'est pas si vieux que ça. Moi, je m'attendais à Sport Billy, Dardar Motus, Les aventures du capitaine Marc Simon. Ça.
On en regarde un extrait.
I fear no man.
Ooh, that's some tough talk coming from a man who wears a basket on his head.
The key to Aku's destruction lies in the past. I will find my way there. I only begun to fight.
Ça a l'air quand même intéressant, là.
Super beau, c'est vraiment c'est un style qui est quand même assez particulier.
Ça fait
là,
très Powerpuff Girls un peu.
Ouais, ça s'inspire un petit peu de ce trend-là. Faut dire que c'est arrivé un peu dans la même époque. Donc, de retour en 2016 sur Adult Swim, il y a des gens qui vont être particulièrement excités. Ça faisait longtemps. D'ailleurs, il faut dire que l'univers avait continué d'être exploité en bande dessinée et c'était fait par des gens qui avaient travaillé sur la série. Donc, c'était considéré comme canonique. Donc, la suite des aventures, si vous voulez. Mais là, on a une vraie suite qui s'en vient au petit écran.
Quand je fouillais pour trouver des bandes annonces ou encore des extraits de trucs, je suis tombé sur un truc plus récent. Ça semble être fait. On va le regarder. Tu me diras si tu reconnais ça. C'est, je pense que c'est fan-made. Je ne suis pas certain. On va regarder ça tout de suite. Voyons. Je pense qu'on a fait la bande originale.
Oui, ça c'est je pense que c'est fan-made.
Oui, hein, c'est fan-made, on a refait un petit peu. Intéressant, on va suivre ça de près. Toi, t'es arrivé, non?
Non, c'est la série,
ouais.
Ça.
C'est la série, oui.
C'est animé comme ça.
OK, c'est animé.
Mais la musique qui est par-dessus, je ne sais pas si tu l'entends.
Attends un peu, et voilà. Bon, OK. T'es revenu, Benoît. Excuse-moi, t'es allé au noir, fait que je revenais sur toi. Ah oui, c'est à cause du vin. Transformer sa NES ultime en ultime expérience événementielle. Ça, c'est quand même pas pire.
Pas beau... sa NES, mais c'est la NES.
Parce que c'est ça. Il y en a plusieurs. Tu t'en sers de plusieurs.
Non, il y a une seule NES là-dedans, mais il y a 8 manettes. C'est super cool pour tous ceux qui trippent sur le rétro gaming. Et Dieu seul sait que vous êtes nombreux, contrairement à ce que certaines personnes peuvent croire. Et
qui croit ça?
Je ne sais pas. Personne.
Tu
pas
m'as mal perçu encore.
L'école polytechnique
fédérale. Écoute-moi. Je veux juste qu'on mette... On va nettoyer la
table.
C'est
une blague.
Oui, mais tu véhicules ça. Et puis les gens s'imaginent que... C'est pas ça que j'ai dit la dernière fois. Si j'ai la chance de jouer un vieux jeu ou un neuf, je vais chercher le neuf. C'est sûr. J'ai joué déjà plusieurs fois de par mon âge vénérable. Mais... Et pour bien des ticus qui nous écoutent, qui n'ont pas connu cette époque-là, c'est intéressant de découvrir toute cette richesse de vieux jeux.
Surtout dans un remix comme ça.
Exactement.
Ça, tu mais
je,
avec moi.
Oui, c'est, je ne dis pas que ce n'est pas bon. J'adore ça, c'est le fun. Mais je répète que si tu me donnes le choix de jouer un jeu, de temps en temps, je vais en prendre deux. J'en ai parlé de Bioshock, ça me tente. Je vais aller chercher, c'est le fun. Mais spontanément, parce qu'on faisait allusion au fait d'aller chercher la rétrocompatibilité des consoles, est-ce que vous tripez là-dessus? Et ça t'a chatouillé. Et ça a chatouillé Ben Chausselaire, paraît-tu aussi. Mais c'est pas méchant. D'accord. C'est pas méchant. C'est juste une question de goût. Et vous avez le droit d'aimer ça aussi. C'est tout.
Oui.
C'est tout.
C'est ça.
On a réglé ça, là?
Ah oui, pas de problème.
C'est bon.
Merci. Mais c'est pour dire que la NES question a été modifiée par l'École polytechnique fédérale de Zurich.
C'est vraiment bien fait.
S'est amusé à développer un système qui fait en sorte que, au lieu d'avoir une image fixe avec un arrière-plan qui circule en arrière du protagoniste, ben, en fait, le personnage se promène dans l'environnement. D'un écran à l'autre, il y a 8 projecteurs qui sont positionnés à 360 degrés.
C'est ça que je pensais. C'est là où je pensais qu'il y avait 8 consoles. Tu vois-tu linker? C'est bien fait.
C'est juste une console. Okay. C'est qu'il y a un système qui va en fait rattacher les images et continuer de diffuser l'ancienne image.
Okay.
Faisant en sorte que tu vois tout le chemin qui a été parcouru.
C'est très cool.
C'est pas super bien fait, par exemple, les exemples qui montrent, je sais pas si c'était la vidéo, là, mais on voit le Mario, les ennemis, des fois, dès qu'ils disparaissent de ton écran, ben, ils sont comme figés et sont à moitié affichés.
Mm-hmm.
Mais ça donne quand même... Ça donne une expérience quand même assez intéressante. Ils l'ont testé dans un bar à justement à Zurich.
Oui, une espèce puis, de barcade. Là.
Là, comment ça fonctionne, c'est que c'est divisé parmi 8 personnes, 8 joueurs. Donc, chaque fois qu'un joueur a fini son temps, on peut donner un délai, par exemple, de 10 ou 15 secondes.
Il passe la manette à l'autre? Ou ça
passe pas la manette à l'autre. C'est que ça va automatiquement à la deuxième manette, la troisième, la quatrième, jusqu'à 8 manettes. Puis il y a un signal visuel à l'écran qui est affiché pour dire 1, 2, 3, 4. Comme ça, les joueurs savent quand c'est à leur tour. Ils peuvent continuer la même partie. Puis c'est dans le fond une espèce d'expérience individuelle à l'origine qui devient une expérience collective.
C'est très cool.
Coopérative.
C'est belle.
C'est super nice. C'est mais c'est un concept. T'sais, parle pas de prix. C'est pas un Kickstarter.
Non, non, non.
C'est juste le fun.
Mais quelle bonne idée.
Puis, tout à fait. Puis, ils ont même poussé ça plus loin. Ils ont développé pour l'Oculus Rift. Là, on oublie les 8 joueurs, mais ça reprend un peu le même principe. Là, c'est très technique, la vidéo, en passant, mais il explique les différentes méthodes pour justement faire en sorte qu'on continue de voir l'arrière-plan quand on circule, quand on fait le trajet. Bon, il explique qu'ils prennent la méthode du milieu. Parce qu'évidemment, c'est des algorithmes, c'est hyper compliqué. La documentation est publiée par l'École Polytechnique. Donc, si vous voulez la consulter, il y a quand même beaucoup d'éléments. Il y a peut-être pas. C'est pas comme si le projet était open source, là, mais on sait au moins comment ils ont fait, quel type d'appareil ils ont employé, puis c'est quoi la démarche derrière tout ça.
Mais c'est c'est brillant, cette affaire-là. C'est le fun.
Aller à un bar, moi, je verrais ça à Montréal sans problème.
Mais tu mets de la musique, là. Tu sais, tu es dans une discothèque, n'importe où, dans un party, tu joues ces murs pendant que les autres dansent. Ça vient comme habiller tes murs.
Puis t'as pas besoin de rester avec ta manette plantée là. Au pire, tu t'en vas. Justement, il expliquait ça. Il y a du monde qui lâche la manette, quelqu'un d'autre la reprend après, il n'y a pas de problème. Ouais. Puis tant que tu te rappelles c'est quoi ton chiffre, puis quand le chiffre apparaît à l'écran, tu joues.
Je pense qu'une petite lumière qui apparaît même devant, quand c'est ton tour de jouer.
C'est très possible. Je sais qu'il y a un gros gars, on vient de voir un gros set affiché à l'écran là, pour savoir. Puis c'est ça tourne autour de toi, c'est 360 degrés, donc faut continuer de tourner. Ça peut être déstabilisant si on joue seul, mais en gang, c'est moins pire.
C'est très
puis
fun.
C'est intéressant à regarder en même temps. Ouais. Fait que c'est cool.
Regarde, il parle justement de la version.
La version Oculus, ouais. Ça, c'est un peu plus expérimental, disons. Ça peut être intéressant, mais encore là, on pivote sur soi-même.
Non, l'autre
juste,
est plus intéressant.
C'est juste le fait de continuer de voir le background, puis de...
Ouais.
Un jeu qui peut revenir sur ses pas, par exemple Super Mario 3, c'est le cas. Je sais pas, le gameplay ressemble à quoi quand il est traduit sur ce type d'installation-là, mais c'est très cool.
Comment ça s'appelle, ton truc?
Eux, ils ont appelé ça « Unfolding the 8-bit era ». Donc, c'est comme déploiement de l'ère 8-bit, parce qu'il prend l'écran, puis il déplie ou il déploie sur plusieurs projecteurs.
Intéressant.
À 360 degrés.
Hier, on a-tu parlé de ton histoire d'Uber, finalement? C'est pas toi, je m'excuse. Paraît-il qu'Uber s'est associé à des compagnies de location de voitures?
Ouais, j'ai vu ça passer, mais j'ai pas prêté énormément d'attention. Apparemment, je pense que c'est Quartz qui avait un article qui disait que c'était pas du tout... je dirais pas rentable. Ouais, non, c'est ça. C'était pas rentable du tout, parce que par rapport au prix... Puis à l'argent que tu peux faire, même dans tes meilleurs runs d'Uber, ben avec le coût de l'essence, tu finis par te faire genre 40$ ou même pas. Puis ça, c'est si t'es chanceux puis que tu optimises ton temps de chauffeur. Ça, c'est ce que j'ai lu entre les lignes, mais je me suis pas attardé plus que ça.
C'est en train de mourir, Uber, ou c'est
je
pas
sais
mal
pas. Non,
c'est pas mort.
Pour tout, je pense que c'est mort.
Je sais pas, je pose la question.
Il y a des complications au niveau légal. Mais je pense qu'à l'étranger, tout ça, c'est vraiment... C'est l'avenir du taxi. Puis, je veux dire, en fait, c'est plus le taxi qui risque de...
De mourir.
De mourir.
Ou de changer, ou d'évoluer.
De changer, d'évoluer. Je pense qu'ils n'auront pas le choix d'évoluer. Je pense pas qu'ils vont disparaître. Là. Mais oui, clairement, la game a changé.
Benoît? Oh, attends un peu, j'ai trouvé ton micro. Commence, Benoît, j'ai coupé le début. Vas-y.
Excuse-moi. Mais j'avais dit, j'avais vu une couple de mois à l'émission de fin de soirée de Late Show, qui est maintenant animée par Stephen Colbert. Le président de Uber est allé se présenter là-bas pour parler des prochains services. Puis à la manière d'Amazon, ils vont diversifier leurs services. Ce ne sera pas juste du taxi. Et un des trucs qui va être testé éventuellement à New York, c'est des navettes qui se déplacent dans la ville. Et si éventuellement vous avez besoin, je ne sais pas moi, d'un repas, ou vous voulez, aller luncher, mais vous voulez que ça vienne à vous, vous le commandez par l'application, ça reste chaud dans les conteneurs prêts, spécialement fait pour ça, puis ça vient vous livrer. Puis comme c'est constamment en circulation, c'est supposé être plus vite qu'une livraison comme, appeler le restaurant, quelque chose comme ça. Et ils vont vraiment aller chercher d'autres marchés que simplement le taxi.
Ça explore, il explore beaucoup, c'est intéressant.
Légal, moi, je suis
Veux-tu répéter, Benoît? Ça a coupé.
Pardon?
Ça a coupé, vas-y. Ça a coupé ton truc.
Je veux juste dire que, bon, ça coupe, Denis, excuse-moi, je ne t'entends pas. Je disais que c'est ça, c'est leur prochain service et qu'ils ne vont pas seulement s'arrêter au taxi. Moi, le point de vue légal, je veux dire, je connais, je ne me mêlerai pas à ça, là, mais au niveau de moi, le service que j'ai en tant qu'utilisateur d'Uber, écoute, d'un, je paye beaucoup moins cher, puis c'est beaucoup moins compliqué quand on a un taxi, savoir quand est-ce qu'il s'en vient tout ça. Là. Fait que c'est un peu comme l'industrie de la musique. Hein. S'ils ne prennent pas le pas, là, s'ils n'emboîtent pas le pas, éventuellement, ben, ils vont disparaître.
C'est inquiétant. C'est pour ça que les gens manifestent, c'est pour ça que les gens gueulent. Moi, je ne suis pas un grand usager d'Uber, c'est pour ça que je pose la question. Mais toi, tu le prends, tu es satisfait. Tu n'es pas le premier qui me dit ça. Il y en a beaucoup qui me disent oh, « oui, c'est le fun, c'est intéressant ». D'autres me disent « non, je ne sais pas ça. »
J'ai eu tellement des expériences de taxi mauvaises à Montréal dans les dernières années. Moi, j'ai un ami, sa jambe est barrée. Puis bon, c'est super anecdotique ce que je vais vous raconter, mais le chauffeur a refusé qu'on rentre dans son taxi parce qu'il devait s'asseoir à l'avant. Puis on a eu un service incroyable. On s'est fait garrocher comme si c'était des voleurs en dehors du taxi. Ben Uber, il faut que tu notes ton chauffeur et eux notent les clients. Il faut que tu aies une note pour pouvoir utiliser le service et vice-versa. Donc ça, je trouve ça quand même assez intéressant aussi. Tu imposes une certaine cordialité, puis bon, mais regarde, ça a l'air qu'il faut être rendu là. Moi, j'ai eu des expériences épouvantables. Si on peut avoir un service... Moi, je veux juste me déplacer d'un point A au point B. Là. Après, le reste, ben.
Ouais. C'est comme en taxi, des fois, on nous balade un peu, on nous promène un petit peu dans
la... Moi, j'ai jamais eu cette expérience-là, puis ces gens-là, c'est ça. Au pire, aller, s'il le fait... Tu lui donnes une mauvaise note.
OK.
C'est avantage à passer par le plus court chemin. Tu sais. En même temps, il peut avoir de la mesquinerie en toi en tant qu'auteur. Tu peux.
Et là, t'es comme dans. Bon, Benoît, t'es comme dans le miel. T'es comme dans le miel. En
mais
ce
on sait où il s'en allait. Ouais. C'est sûr que.
Il y a de la misère.
Mais je suis tout à fait d'accord avec lui. En fait, les propos de Benoît sont les mêmes que mes amis qui ont utilisé le service régulièrement. Puis c'est un fait que le simple fait d'être noté et de noter le chauffeur, ça vient
ça change la donne.
Genre, ouais, ça change la donne. Puis ouais. Ça fait en sorte que des erreurs niaiseuses, il y en a peut-être moins.
Mais quand t'es le monopole, puis t'es tout seul, tu t'en sacs, t'as pas de compétition.
Oui,
mais là, il y en a.
Le chauffeur, c'est ça.
Il y en a. Fait qu'ils sont obligés de s'ajuster puis réagir. Ouais. Et souvent, ça fait peur, le changement aussi. Quand t'es bien, qu'une industrie fonctionne bien, t'es dans tes petites affaires, ça roule.
J'aime le comparatif que Benoît a fait par rapport à l'industrie musicale puis les nouvelles technologies. C'est clair qu'il faut s'adapter.
Vas-tu mieux, mon Benoît? Là? Peux-tu nous parler un peu? T'es chien.
Yes, non, c'est pas.
T'es chien. Hey, merci beaucoup, Benoît, d'avoir été là ce soir encore une fois.
Plaisir, Benny.
Comment tu es fatigué, je sais.
Non, on avait joué à Battlefront. Là.
Ah, c'est vrai, on va se retrouver en ligne. J'ai comme l'impression qu'on va aller faire un tour aussi. OK. Hey, Martin, puis aimes-tu tes écouteurs? Moi, j'ai la même.
Pour vrai, là, je suis en colocation. Je ne veux pas nécessairement déranger mon coloc. Je voulais.
OK.
Vraiment comme. Bonifier mon expérience de jeu, c'est assez impressionnant. Toutes les subtilités du son, puis il faut dire qu'en plus, Battlefront, c'est un jeu au niveau sonore qui...
Ouais, c'est magnifique.
Fantastique. Mais... Non, je ne regrette pas mon achat.
Alors, ils viennent de passer, ces écouteurs, c'est ceux-là ici. La magie du live. Non, moi, j'aime bien ça. Et puis, il y a des petits programmes qu'on peut télécharger dedans pour changer un peu, adapter les écouteurs par rapport au jeu.
Ah, c'est cool.
Ça, c'est le fun. Alors, allez faire un tour sur le magasin Sony. Je les aime bien aussi. Est-ce que tu as le lobe un peu humide lorsque tu y joues?
Non, j'ai pas le lobe humide. Mon lobe a une très bonne circulation d'air.
Ah, OK. Moi, j'ai le lobe un peu trempe. C'est large, probablement. Et après un certain temps, je deviens le lobe humide. Je joue de l'aérer du petit lobe. Mais c'est quand même, c'est des bons écouteurs. Excellente suggestion pour les parents qui écoutent pour peut-être offrir des cadeaux à Fiston ou à des amis, n'importe quoi.
Pour les gens qui se demanderaient, le casque est compatible Mac et PC. Donc, vous pouvez le configurer pour votre machine si vous ne voulez pas juste l'utiliser sur votre PS4.
Exact. Merci, Benoît, d'avoir été là ce soir.
Merci, Denis.
Attention à toi. On se retrouve à ton party probablement le 19. J'emmène la gang. Tout le monde va être là. Même moi, je suis déjà invité, moi. Je me suis fait inviter. Il ne sait pas, là, mais...
Tu viendras.
C'est sûr. C'est sûr. On va aller faire un tour.
Amène le Jack.
Oh! Salut, bon vieux. Attention à toi. Bonne soirée. Monsieur Lassalle, on se prépare demain pour l'avion.
Ben oui.
Est-ce que vous voyagez léger?
Push-up. Ben sûrement, hein? Qu'est-ce que moi j'amène? Je pense que je sors un bagage. Pas de bagage enregistré.
Bagage à main.
Ouais, une valise puis mon ordi.
C'est la même chose. Moi, j'ai bien dimanche. Toi, t'as bien dit lundi.
Je reviens dimanche.
Dimanche aussi?
Oui, mais je reviens lundi à 1h du matin. Je reviens dimanche.
On part ensemble?
On part ensemble. La main dans la main.
Non, l'avion, moi, je prends l'avion à 4h du matin. On se lève à 4h du matin, style, pour être ici lundi. C'est ça même
chose? Non, mais c'est ça.
Toi, c'est lundi que tu reviens.
Dimanche, moi, le dimanche, je pars à genre 2h d'après-midi.
Ah, OK, pas moi.
Ben, c'est ça.
Parce que je travaille à RDS lundi.
Ben, c'est, ça t'apprendra.
Ah ben écoute, hein? Ça va être le fun. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, ce projet pilote, entre guillemets, chez RDS. On va faire du e-sports. Ça, ça va être le fun. Et je m'en vais dans cette mec du sport.
On va-tu pouvoir venir scinder au Nexus ou comment ça va se passer?
J'ai aucune idée.
Non? OK.
Je le sais, mais je ne peux pas en parler. Mais c'est pas au Nexus, c'est pas ça se fait. Ça se fait dans les studios d'RDS, dans ce temple de la renommée, okay. Avec des sportifs que je ne connais pas et des annonceurs qui sont très bons que je n'ai pas le plaisir de connaître, mais que je vais découvrir en tant qu'être humain.
Non, c'est pas pire comme ça. C'était des trucs à Radio-Canada, c'est pas trop loin,
traverse la rue, puis après ça, j'arrête à Énergie juste à côté.
Hey, man! C'est à croire que toutes les stations sont dans le même coin, puis ils ont pensé.
C'est ça.
Merveilleux.
C'est un hasard.
C'est un hasard.
Merci.
De la vie,
effectivement. Hey, j'ai pas parlé beaucoup aux gens du chat ce soir. Merci beaucoup à Marco Gauthier de son don sur PayPal. Également, Dwayne, un nouvel usager. Il y a Falox qui est avec nous également ce soir. Il y en a beaucoup. On a environ 200 nouveaux membres depuis le début du mois. Fait que c'est fou. Ça va bien. Je suis bien content. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Et vous autres, on se retrouve demain. Benoît, passe une belle soirée. Et vous, à la maison, continuez de nous écouter, de nous regarder. C'est très, 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 très cool. On apprécie le fait que vous soyez là aussi nombreux. Et est-ce qu'il y aura des tests ce soir? Non. Ce soir, on prend ça relax. On va jouer avec les chums. Ça ne me tente pas de faire de la TV. On en a fait toute la semaine. Tranquillement. Peut-être une petite game avec de Battlefront avec le chum qui est là. On ne sait pas.
Yes.
Hein? On va se retrouver de toute façon en ligne dans quelques instants. Le temps de partir tout ça et de vous dire de passer une excellente semaine. On se retrouve donc, c'est mardi. On aura des nouvelles de PlayStation et de d'autres affaires pour vous. Alors, soyez là. Salut à vous autres. Bonne soirée. Tout le monde!
Radio Talbot vous a été présenté par les Brasseurs Illimités et la bière Simple Malte. Mugaudio, les spécialistes pour les DJ, le son et la musique depuis 1998. Mugaudio.com. EB Games, le plus grand détaillant de jeux au Canada. Et par CIPC, votre référence pour votre solution informatique.